Les cours d'école sont les premiers lieux de sociabilisation des enfants. Ne rigole pas, un endroit de jeu, de plaisir entre camarades, mais parfois également un endroit terrifiant.
Différentes études menées en Suisse révèlent qu'environ 6% des élèves sont victimes de harcèlement à l'école. Alors, le harcèlement, ça peut revêtir plusieurs formes, menaces, bousculades, surnoms ridicules, des actes qui peuvent briser l'intégrité, voire l'avenir de celui qui se fait persécuter.
C'est de ce thème délicat dont nous parlons aujourd'hui avec notre invité André Hugui. Vous êtes conseiller spécialisé à la santé bernoise. Bonjour.
Bonjour.
Le harcèlement, il prend plusieurs formes. À quoi on le reconnaît ?
Alors disons qu'on distingue les formes directes, qui peuvent aller de l'injure aux violences corporelles, des enfermements, également le racket, l'appropriation de biens matériels, tout bêtement le fait de confisquer ou de voler le Deezer, le goûter d'un enfant. On parle aussi de déshabillage forcé. Enfin, il y a toutes sortes de formes qu'on appelle directes, qui se distinguent des formes indirectes qui sont beaucoup plus subtiles, comme les rumeurs. Ça peut être parfois simplement le ton de la voix, l'exclusion d'une personne, l'ignorance, un enfant qui est simplement mis de côté. Et ces formes indirectes sont souvent beaucoup plus difficilement observables que les formes plus directes.
C'est vrai que vous avez parlé de rumeurs, notamment on sait que par le biais de Facebook, par exemple, ou autres réseaux sociaux, il y a des rumeurs qui sont véhiculées et qui peuvent faire de très très grands dégâts.
Alors, tout à fait, vous avez parlé de la cour de récréation. En fait, le harcèlement a son prolongement de cette cour de récréation sur les réseaux sociaux, sur la toile. C'est des phénomènes tout à fait semblables, mais qui se déroulent sur un autre terrain. Et effectivement, ce qui est beaucoup plus déplorable par rapport aux nouvelles, on va dire aux technologies numériques et tout ce qui se passe sur Internet, c'est que ça va se propager de manière beaucoup plus rapide et dans un cercle beaucoup plus grand. Ce qui fait que les victimes auront aucune maîtrise, encore moins de maîtrise de l'information ou de la rumeur dont ils vont être victimes.
Donc c'est ce qui a changé ces dernières années, parce que le harcèlement, même si on ne l'a pas toujours appelé comme ça, ça a toujours existé dans les cours d'école. Mais le problème était limité à la cour d'école, voire au trajet entre l'école et la maison. Mais une fois qu'on était à la maison, on était protégé. Aujourd'hui, on ne l'est plus.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que par le passé, la chambre, la maison, le cocon familial pouvait être, entre guillemets, un havre où on peut un petit peu récupérer, être protégé des rumeurs et de tout ce qui peut concerner une victime de harcèlement, ce qui n'est plus le cas maintenant avec les technologies numériques. Et vous avez aussi dit qu'effectivement, le harcèlement, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé. Alors, je ne sais pas faire d'études historiques, mais je peux imaginer que dès le moment que l'école a été inventée, que des enfants vivent ensemble, le harcèlement, forcément, il y a un risque de développement de phénomènes de harcèlement. Par contre, maintenant, on en connaît les conséquences, on essaie de comprendre mieux comment ça s'installe, parce qu'il y a des enjeux importants.
Est-ce qu'il existe des cibles types ?
Alors, on serait tenté de le croire et ça serait un petit peu facile de pouvoir... mais ça serait également très, très dangereux. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de cible type. C'est vraiment un phénomène de groupe, un phénomène social. Et un enfant peut très bien être harcelé dans le cadre d'un groupe et pas du tout dans le cadre d'un autre groupe. Ça va beaucoup dépendre de la dynamique de ce groupe.
Est-ce que pour les enfants, la question du harcèlement est un jeu, parce que ça va parfois au-delà de la méchanceté gratuite ?
Tout à fait, là c'est vraiment notre regard d'adulte qui part du principe qu'un enfant qui a des comportements agressifs ou qui est méchant, entre guillemets, mais souvent les enfants... J'aime pas parler d'enfants harceleurs, mais plutôt d'enfants avec des comportements agressifs, n'ont pas forcément conscience. Et pour eux, effectivement, c'est un jeu. Et ils ont aussi l'impression que l'enfant qui est victime fait partie de ce jeu et ils n'ont pas toujours la conscience de ce qui se passe et de la position de la victime et au niveau émotionnel de ce que vit la victime.
Donc ça veut dire que il n'y a pas forcément du côté des enfants ayant un comportement agressif, puisqu'on ne va pas dire enfant harceleur, il n'y a pas forcément une volonté d'humilier la victime. C'est nos yeux d'adultes qui voient ça comme une volonté d'humiliation.
Alors, c'est vrai que nos yeux d'adultes ont parfois tendance à faire des raccourcis entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, entre le bien, le mal. Et c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça dans un groupe d'enfants. Et effectivement, les enfants qui ont des comportements harceleurs ne sont pas... quand on parle d'intentionnalité, c'est très compliqué de dire, mais à partir de quel moment on va faire du mal intentionnellement. Là, on rentre dans le phénomène de perversité, ce qui est très, très rare. Hein, c'est des cas très, très rares. Donc, la plupart du temps, certains enfants sont un peu en déficit d'empathie, donc ils ont peut-être la peine à se mettre à la place de l'autre et auront du mal à voir qu'ils font souffrir leur copain ou leur copine.
Parce qu'il y a des victimes, finalement, qui sont plus fragiles que d'autres aussi.
Alors, il y a peut-être une vulnérabilité, mais là encore, on doit faire très attention au niveau du profil des, entre guillemets, des victimes. Il n'y a pas vraiment de profil de victime, mais c'est peut-être des enfants qui, à un moment donné, ont plus de peine à s'intégrer dans un groupe ou à répondre à peut-être quand ils se font chambrer ou quand ils n'ont pas la bonne réponse au bon moment. Et ça peut suffire pour entamer un phénomène qui peut se reproduire, puisque dans le phénomène de harcèlement, on parle vraiment de répétition sur le temps, contrairement à un conflit ou à quelque chose qui va être épisodique. Il y a vraiment cette notion de répétition dans le temps, de ces agissements négatifs avec, pour corollaire, l'isolement de la victime.
Et le fait que les victimes ne veulent pas ou ne peuvent pas en parler, c'est ça aussi qui donne toute la difficulté ?
Tout à fait. Au niveau du repérage, parfois, et plus la situation est ancrée dans le temps, plus ça sera difficile pour une victime de s'exprimer. Il y aura souvent le sentiment de honte, finalement, de se dire « mais c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui suis nul », une estime de soi qui va être vraiment mise en défaut. Et plus la situation s'installe dans le temps, plus ça sera difficile pour la victime d'en parler. Donc aussi beaucoup plus difficile pour les adultes de repérer, de percevoir et de pouvoir intervenir.
Jusqu'à 9h, format A3.
Format 3 qui s'intéresse ce matin au harcèlement entre enfants. Notre invité, c'est André Hugui, il est conseiller spécialisé à la santé bernoise.
En première partie, on a voulu comprendre ce qu'est le harcèlement, quelle forme il peut prendre et qui en sont les victimes.
On passe maintenant à la prévention. Savoir reconnaître les signes, c'est une chose primordiale. Alors justement, comment on fait pour qu'un enfant ose venir en parler ?
Je dirais que là, on est plutôt dans les mesures préventives. Dans une famille ou dans une école où le dialogue est maître, où il y a un esprit d'ouverture, où les enfants se sentent en confiance, ils auront beaucoup plus de facilité à venir se confier à un adulte, que ce soit pour une situation de harcèlement ou un autre souci. Donc, une des premières choses, ça serait de pouvoir créer un climat de confiance, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'école, qui permet à l'enfant d'avoir le plus de moins d'obstacles possibles, si on veut, jusqu'à frapper à la salle des maîtres ou chez une médiatrice ou chez une infirmière scolaire ou chez sa maman ou son papa, parce que parfois on sous-estime l'effort aussi pour un enfant de demander de l'aide.
Un enfant qui est harcelé, est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les parents ? Parce que Nadia l'a dit, hein, souvent les enfants vont avoir de la peine à oser en parler, parce que oser en parler, c'est reconnaître qu'il y a un souci qu'on veut peut-être vouloir avoir envie de cacher. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent inquiéter tant les enseignants que les parents ?
Je dirais que le signe principal, ça serait peut-être les changements de comportement. Quand un enfant qui jusque-là était toujours gai, plein de joie de vivre, participer à de nombreuses activités et tout d'un coup commence à vouloir cesser ses activités, devient taciturne, a peut-être des problèmes de sommeil, alors qu'il adorait un certain type de repas, il commence à rechigner devant son assiette, même pour un repas qu'il apprécie. Donc c'est plus dans les changements de comportement. En même temps, on doit aussi faire attention parce que derrière ces symptômes, entre guillemets, ne se cache pas forcément une situation de harcèlement. Donc j'aimerais aussi rassurer les parents quelque part. C'est bien qu'on parle de harcèlement, mais on ne doit pas en voir non plus derrière chaque symptôme ou chaque petit signe. C'est plutôt quelque chose qui va s'installer sur le temps, on va dire.
La prévention, pour vous, elle prend quelle forme ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des rendez-vous réguliers avec les parents ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des règles de vie en classe ? Que les professeurs, les surveillants soient au courant de la possibilité de harcèlement ? Que les préaux soient surveillés ?
Alors, vous avez déjà énuméré quelques mesures tout à fait importantes, c'est-à-dire au niveau de l'école, effectivement, un cadre clair avec des règles qui sont claires, éviter les situations d'arbitraire. C'est important que les enfants sachent à quelle sauce, entre guillemets, ils seront mangés quand ils dérogent justement à ces règles. Aussi une cohérence dans le corps enseignant, une cohérence entre adultes. Vous avez parlé aussi de communication avec les parents. Je pense que quand les parents et les enseignants arrivent, malgré leurs différences, malgré leurs différences d'opinion, malgré aussi leurs différences de rôle, mais arrivent à communiquer dans le respect, quand les parents, on ne discrédite pas un enseignant devant leur enfant, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec lui, c'est aussi une forme de modèle. Donc ça va poser un cadre très sécurisant pour les enfants. Donc là, on est vraiment dans les mesures préventives, effectivement.
André Huguy, vous donnez régulièrement des cours ou des soirées d'information concernant le harcèlement. Qui vient suivre ces cours ? Des professeurs, des parents ?
Alors, on a une forme particulière. En fait, on travaille généralement avec un public cible particulier. C'est-à-dire que soit on travaille avec des enseignants, soit on rencontre des parents. Et nos formations sont vraiment adaptées aux situations et aux besoins des participants. Donc, on n'a pas de formation clé en main. On va vraiment les construire. Et d'une école à l'autre, ça peut aussi changer. La première chose qu'on va faire, c'est déjà voir... faire une analyse un petit peu du terrain, de tout ce qui se passe dans l'école. Et parfois, les enseignants sont surpris de constater que finalement, ils font déjà beaucoup de choses. C'est rare qu'une école ne se préoccupe pas forcément que du harcèlement, mais du bien vivre ensemble, du climat scolaire. Et souvent, des enseignants s'étonnent en disant « Ah, mais alors, quand on organise une course d'école ou quand on organise une fête de fin d'année avec les parents et qu'on discute avec eux, ça fait aussi partie des mesures préventives. » Et tout à fait, ça, c'est important. C'est des choses qui s'inscrivent dans le quotidien. »